Jésus sourit et commence à parler. « Vous avez appris qu'il a été dit autrefois, « ne commets pas l'adultère. Ceux parmi vous qui m'ont entendu dans d'autres endroits savent que plusieurs fois j'ai parlé de ce péché, parce que, faites bien attention, ce péché n'intéresse pas une seule personne, mais intéresse deux ou trois personnes. Et je m'explique. Celui qui commet l'adultère pêche pour lui-même, il pêche pour sa complice, il pêche en portant au péché la femme ou le mari trahi qui peuvent en arriver au désespoir ou à pécher eux-mêmes. Ceci pour le péché consommé. Mais je vous dis en plus, je vous dis, non seulement le péché consommé, mais le désir de le consommer est déjà péché. Qu'est-ce que l'adultère? C'est le désir fiévreux de celui ou de celle qui n'est pas à nous. On commence à pécher par le désir, on continue par la séduction, on complète par la persuasion, l'acte couronne le tout. Comment commence-t-on? Généralement par un regard impur, et cela nous ramène à ce que je disais auparavant. L'œil impur voit ce qui est caché à celui qui est pur, et par l'œil, la soif entre dans le gosier, la faim dans le corps, la fièvre dans le sang. Soif, faim, fièvre charnelle, c'est le commencement du délire. Si l'autre, la personne regardée, est honnête, celui qui délire reste seul à se retourner sur des charbons ardents, ou bien il en arrive à calomnier pour se venger. Si elle est malhonnête, elle se fait complice du regard, et alors commence la descente vers le péché. Aussi, je vous dis, celui qui regarde une femme en la désirant a déjà commis l'adultère, car dans sa pensée, il a déjà commis l'acte qu'il désire. Plutôt que cela, si ton œil droit est pour toi occasion du scandale, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi être borgne que de tomber pour toujours dans les ténèbres infernales. Et si ta main droite a péché, coupe-la et jette-la. Il vaut mieux pour toi avoir un membre de moins plutôt que de tomber tout entier dans l'enfer. Il est vrai qu'il est dit que ceux qui sont difformes ne peuvent servir Dieu dans le temple. Mais après la vie, ceux qui sont difformes de naissance, s'ils sont saints, ou ceux qui le sont par vertu, deviendront plus beaux que des anges et serviront Dieu en l'aimant dans la joie du ciel. Il a été dit aussi que celui qui renvoie sa femme lui donne un libellé de divorce. Mais c'est une chose à réprouver. Elle ne vient pas de Dieu. Dieu dit à Adam, « C'est la compagne que j'ai faite pour toi. Croissez et multipliez-vous sur la terre. Remplissez-la et soumettez-la à votre pouvoir. » Et Adam, rempli d'une intelligence supérieure, car le péché n'avait pas encore troublé sa raison, sortie parfaite de Dieu, s'écria « Voilà enfin l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera virago, c'est-à-dire un autre moi-même, parce qu'elle est tirée de l'homme. Pour ce motif, l'homme laissera son père et sa mère, et les deux seront une seule chair. Et avec l'éclat d'une splendeur accrue, l'éternelle lumière approuva avec un sourire ce qu'avait dit Adam et qui devint la loi première, irréformable. Maintenant, si à cause de la dureté toujours plus grande de l'homme, le législateur humain dut faire une nouvelle loi, si à cause de l'inconstance croissante de l'homme, il dut mettre un frein et dire « Si pourtant tu l'as répudiée, tu ne peux la reprendre », cela n'efface pas la loi première, authentique, née au paradis terrestre et approuvée par Dieu. Moi, je vous dis, quiconque renvoie sa propre femme, excepté le cas de l'adultère bien établi, l'expose à l'adultère. parce que, en effet, que fera dans 90% des cas la femme répudiée? Elle fera un second mariage. Avec quelles conséquences? Oh, il y en aurait à dire sur ce sujet. Ne savez-vous pas que vous pouvez provoquer des incestes involontaires avec cette manière d'agir? Que de larmes versées pour une luxure. Oui, une luxure. Cela n'a pas d'autre nom. Soyez franc. On peut tout surmonter quand l'esprit est droit. Mais tout se prête à motiver les satisfactions de la sensualité quand l'esprit est luxurieux. Frigidité de la femme, lourdeur, inaptitude aux affaires, humeur grincheuse, amour du luxe, on peut tout surmonter, même les maladies, même l'irascibilité, si on s'aime saintement. Mais comme après quelque temps on ne s'aime plus comme au premier jour, voilà qu'alors on regarde comme impossible ce qui est plus que possible, et l'on jette une pauvre femme à la rue et on l'envoie à sa perdition. Commet l'adultère celui qui répudie sa femme et celui qui l'épouse après la répudiation. Seule la mort rompt le mariage. Souvenez-vous-en. Et si vous avez fait un choix malheureux, portez-en les conséquences comme une croix. Vous serez deux malheureux, mais sains. Vous ne ferez pas de vos enfants des êtres plus malheureux, ces innocents qui ont davantage à souffrir de ces situations difficiles. L'amour de vos enfants devrait vous faire réfléchir 100 et 100 fois, même dans le cas de la mort du conjoint. Oh, si vous savez vous contenter de ce que vous avez eu et auquel Dieu a dit « Cela suffit ». Si vous saviez, vous veufs et vous veuves, voir dans la mort, non pas un amoindrissement, mais une élévation à une perfection de procréateur. Être mère, même pour la mère défunte. Être père, même pour le père disparu. Avoir deux âmes en une. Recueillir l'amour des enfants sur les lèvres refroidies de la personne qui meurt et dire « Pars en paix, sans crainte pour ceux qui sont venus de toi. Je continuerai à les aimer pour toi et pour moi, de les aimer deux fois. Je serai père et mère, et l'infortune de l'orphelin ne pèsera pas sur eux. Ils ne connaîtront pas la jalousie naturelle de l'enfant du conjoint remarié pour celui ou celle qui prend la place sacrée d'une mère, d'un père appelé par Dieu à une autre demeure.